La Ville de Montréal qui annonce le report de certains travaux pour la prochaine année, tout ça pour répondre aux critiques des Montréalais qui trouvent qu'il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de cônes et beaucoup d'entraves. Donc, c'est une baisse en pratique là, qui devrait donner des résultats, un certain effet. J'en parle avec Sylvain Ouellette, qui est le vice-président du comité exécutif de la Ville, qui est responsable du dossier des infrastructures. Monsieur Ouellette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
C'est sûr qu'en année électorale, c'est plus facile à décider. Ça va vous donner un coup de pouce.
Mais en fait, c'est normalement, les chantiers, vous savez, là, depuis la date olympique, on a beaucoup de déficits d'infrastructures. On était plus, là, on avait un plan de 10 ans d'infrastructures depuis déjà plusieurs années. Le but, on était vraiment dans l'accélération des travaux. Mais là, visiblement, on a atteint un point où, avec la COVID aussi, le fait que le monde sont plus à l'intérieur, sont plus stressés par la COVID. Ceux qui font du télétravail, des fois, ils voient des chantiers dans leur rue alors que normalement, ils ne voyaient pas le jour. Écoutez, on a écouté les Montréalais puis on a décidé de ralentir le rythme des gros chantiers l'année prochaine.
OK. Quand vous dites ralentir, moi, j'ai 2-3 questions précises. Là. D'abord, ça part quand? À quel moment vous dites un chantier devait commencer à Montréal et il est reporté? Donnez-moi un exemple là, d'un calendrier là, des prochains mois.
Un chantier, ça se prépare en moyenne 2 ans d'avance, puis quand il y a de l'enfouissement électrique, c'est 3 ans d'avance avant la date du chantier. Vous savez, les chantiers au Québec, là, c'est essentiellement là, quand il n'y a pas de neige. Donc, souvent, on voit un appel d'offres fin de l'automne, début de l'hiver, pour après ça profiter là, tout de suite après le dégel au niveau des chantiers. Donc, dans le fond, les chantiers là, qui allaient démarrer en 2021, ben, c'est maintenant qu'il fallait prendre la décision, puis c'est ça qui a été pris par la mairesse. Elle avait déjà annoncé il y a quelques semaines. Et dans le fond, vous oubliez des chiffres, là, on réduit de 40% le nombre de gros chantiers que la ville est responsable. Mais on le dit souvent, je pense que j'ai déjà dit à votre antenne, malheureusement, la ville est seulement responsable de 25% des chantiers qui se font sur son territoire. Il y a évidemment les chantiers des partenaires, on peut penser à Hydro-Québec qui augmente de 2,5 fois la capacité électrique sur l'île, donc ça fait beaucoup de chantiers, Énergir, puis on peut penser au MTQ, là, on est quand même chanceux, là, le gros chantier du pont-tunnel commence juste en 2022, ça aurait pu être cette année, là. Ça aurait pu être en 2021 là, qui aurait commencé.
OK, mais si je mets de côté là, les chantiers privés, là, il y en a un paquet au centre-ville, là, que ce soit des condos ou autres.
Des tours, oui.
Oui, exactement. Les gros chantiers, là, ceux qui causent le plus de problèmes, là, je parle pas de refaire une rue qui est quand même assez limitée, là. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des chantiers principalement de la ville de Montréal?
Les chantiers, c'est sûr que quand on est dans la rue, souvent les chantiers privés, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que souvent ils impactent au niveau de la mobilité parce qu'ils prennent une voie sur le côté. Dans des rues très larges, c'est pas trop pire, mais par exemple, dans Griffintown, un ancien quartier industriel, il y a plein de petites rues, donc ça, c'est vraiment problématique. Parce qu'il y en a, ça occupe rapidement beaucoup de choses. Sinon, les gros chantiers, en fait, c'est nous, c'est souvent nous, puis souvent on intègre aussi les travaux des partenaires. Hein, comme par exemple, on est en train de faire pile. Gaz Métro Énergie est en train de refaire une conduite maîtresse, mais on l'a intégré à notre chantier. On a intégré aussi un petit chantier de la STM à même notre chantier pour éviter là, de reproduire ce qui s'est passé à Saint-Laurent où on rouvre la rue plusieurs fois là, d'affilée. Là.
OK. Et ce que je comprends, c'est que ça ne concerne pas les chantiers de la Commission des services électriques.
Ça dépend. Ça veut dire que quand on refait une rue au complet, on intègre la Commission des chantiers, la Commission des services électriques. Mais la Commission, des fois, a des chantiers aussi qui sont plus à différents endroits. Et ces chantiers-là, en fait, c'est ce qui est dommage et ce qui est impactant, c'est que les fils électriques, quand on les enfouit, ils sont sous les trottoirs. Et les chambres électriques sont au coin de rue. Donc souvent, par exemple, il y en a un là dans l'ouest de la petite patrie. Étant donné qu'il est sur le coin de la rue, ben c'est impactant parce que ça affecte évidemment là, pas juste une rue, mais ça affecte deux rues. Là, puis quand c'est sur une intersection majeure, évidemment, ça cause problème puis ça fait des petits détours pour les piétons.
OK. Mais M. Ouellette, là, pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs là, ce matin, là, je comprends qu'on reporte ça dans le temps. Ça va se faire un jour, ça c'est correct. Mais allez-vous, je dirais, pour être gentil, là, perturber la vie des Montréalais en disant OK, on ne fait pas ce chantier-là, mais on va vous installer une piste cyclable, on va vous déplacer des arrêts d'autobus. Autrement dit, allez-vous y aller de façon aussi improvisée que dans les derniers mois? Parce que c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de chantier ou il y en a moins, mais si le reste n'est pas en harmonie, là, ça va être l'enfer pareil. Là.
Bien, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse équipe d'organisation, de planification des chantiers. L'année 2020 a été particulière, pas tant pour les chantiers qui étaient planifiés, mais à cause de la pandémie qui a fait en sorte qu'on a mis en urgence des voies actives et sécuritaires pour assurer la distanciation sociale. Et ça, évidemment, c'était pas prévu. Là. Je veux dire, personne l'avait prévu là, l'année passée quand on a établi la programmation des chantiers 2020, qu'on allait établir un réseau de voies actives et sécuritaires, que les chantiers eux-mêmes allaient être retardés de plusieurs semaines, ce qui allait les prolonger aussi dans le temps. Donc ça, évidemment, il a fallu faire avec.
Non, mais ma question, là, c'est que vous enlevez des chantiers pour rendre ça plus fluide sur des artères principales, là, comme Saint-Joseph et tout ça. Moi, c'est parfait, là. Mais c'est parce qu'il ne faudrait pas nuire à ce beau geste en, finalement, faisant d'autres types d'aménagements qui vont, encore une fois, nuire à la circulation.
Bien, écoutez, la rue appartient à tout le monde. Hein, donc, c'est toujours un équilibre entre... par exemple, les fonctionnaires vous avaient montré là, pour Saint-Denis, là, si on voulait répondre à l'ensemble des besoins, il aurait fallu, je pense, d'une rue à 12 voies. Parce que si on prend tous les besoins possibles là, en stationnement, en débarcadère, en terrasse, après ça en circulation, en voie réservée, en piste cyclable, un moment donné, on est coincé avec des rues qui ont été faites là, des fois plus d'un siècle.
OK, mais je prends l'exemple ce matin dans la presse du réseau Express Vélo là, sur Saint-Denis. Mm-hmm. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est que vous avez opté pour l'option qui est peut-être la plus sécuritaire pour les cyclistes, mais c'est celle qui dérange le plus la circulation automobile.
Bien, écoutez, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, sur Saint-Denis, un gros avantage qu'on a sur Saint-Denis, c'est qu'il y a quand même le métro en dessous qui transporte énormément de fois plus de personnes automobiles et cyclistes au-dessus. Donc, il y a quand même une bonne possibilité de transfert modal. Il faut savoir que la rue Saint-Denis est quand même dangereuse. Je veux dire, bon, il y a eu Mathilde Blais, mais il y en a eu, je veux dire, c'est une artère qui est assez accidentogène. Donc, oui, la sécurité a été très importante dans le choix de cet axe-là.
Mais ça, je comprends, mais moi, ce que je trouve particulier, là, je cite, selon deux experts, ce document là, sur lequel vous êtes basé pour prendre la décision ne constitue pas une étude de circulation en bonne et due forme comme celle que les services municipaux exigent des promoteurs avant de permettre la construction de projets. Vous êtes basé sur quelque chose, là, qui est peut-être un document, là, mais vous en demandez plus aux autres que vous vous êtes vous-même posé comme question.
Ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que, écoutez, là, peu importe où on avait placé le REV, là, il y avait trois options dans l'axe nord, dans l'axe nord-sud. Évidemment, il allait avoir des impacts sur la circulation. Écoutez, là, on peut pas soit des impacts sur la circulation, soit des impacts sur le stationnement ou sur les terrasses commerciales. Je veux dire, on savait qu'à quelque part, il allait avoir un impact. On a décidé de prendre en fonction des critères ce qui allait avoir le moins d'impact selon nous et avec pour le plus de bénéfices. Mais ultimement, si on veut aussi des changements de comportement à terme, des transferts, par exemple, de l'auto solo vers d'autres modes, ben il faut que ces autres modes-là
soient. Non, mais en gros, monsieur Ouellet, en gros, ce que les experts disent, consultés, disent que vous n'avez pas fait des études sérieuses avant de prendre la décision.
Non, parce que là, au niveau des services, là, ils ont fait évidemment ça, c'était des choix préliminaires. Là, après ça, évidemment, ils ont continué à travailler. Là.
OK. Comment ça va à Projet Montréal? Là? Je viens de lire sur le site de Radio-Canada, en fait, depuis tôt ce matin, que ça a l'air que ça va pas très bien, que des vieux routiers se font tasser, qu'on doit passer par le bureau de la mairesse pour contrôler le message, etc., etc. C'est-tu vrai, ça?
Ben, écoutez, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Là. Moi, ça fait depuis 2008 chez Projet Montréal. Il y a toujours eu... écoutez, là, c'est comme un groupe. Hein. C'est comme quand on fait des travaux scolaires. À l'université, ben, puis tu travailles en équipe, ben, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que plus le groupe devient gros, ben, plus ça devient compliqué, mais quand même, on a...
OK, mais prenons des exemples. Ouais, on dit qu'il y a des élus dans des arrondissements, puis là, sous-entendre M. Croteau dans Rosemont, là, qui ont pris des initiatives qui n'ont pas été autorisées par la Ville-Centre, que ça a déplu et que ça dérange. C'est vrai, ça?
Bon, écoute, je connais pas nécessairement le cas spécifique de M. Croteau, là. Mais ultimement, il faut savoir que, je veux dire, s'il n'y avait pas les arrondissements, il y aurait beaucoup moins d'initiatives locales qui pourraient se faire. C'est-à-dire que moi, là, je vois, là, puis même moi, dans mon propre district, là, même je suis pas maire d'arrondissement, je veux dire, je sens que j'ai quand même beaucoup de latitude pour faire un paquet de choses. Mais évidemment, quand il y a des sujets qui sont plus majeurs, étant donné que, veux pas, c'est la mairesse qui est la porte-étendard, finalement, du parti, puis c'est celle aussi que les journalistes vont aller la voir.
Okay. Avez-vous le droit de donner des entrevues sans demander la permission au bureau de la mairesse?
Ben, moi, j'en fais localement, ben oui.
OK, mais c'est pas centralisé, c'est pas contrôlé, vous devez pas avoir une permission pour le faire.
Ben, c'est sûr que au niveau des entrevues, là, par exemple, mettons pour vous ce matin,
ouais.
Je vous m'avez pas appelé directement. Là, votre chargiste m'a pas appelé directement. Il a appelé au cabinet de la mairesse pour après ça répartir en fonction des disponibilités puis en fonction aussi des spécialités.
Là. OK, mais ma question là, ben simple, là, est-ce que ça doit être parce que moi on me dit que si c'est pas autorisé par le bureau de la mairesse, vous n'avez pas le droit de donner d'entrevue, tu vois?
Ben, moi, ça m'est pas arrivé, en tout cas.
OK. Est-ce que c'est vrai qu'on veut, appelons ça, vous êtes là depuis 2008,
oui.
on donne des exemples là, de recherche de diversité dans les candidatures. Je cite Radio-Canada, une source en tout cas qui prétend qu'il faut se débarrasser des gens de 50 ans et plus urbanistes blancs pour les remplacer par d'autres, puis avoir plus de gestionnaires.
Ben, c'est sûr que pour les postes de mairie, c'est du qu'il y a une bonne partie de gestion.
Non, mais pour qu'on se comprenne, ouais. Là, Croteau, là, il a fait son temps. Ferrandez est parti. Fait que du monde demain, c'est pas ça qu'on veut. Là. On veut avoir d'autres mondes, puis du monde qui vont gérer ça autrement. Puis on veut un pouvoir centralisé autour de la mairesse. C'est ça, en gros, que ça dit.
Ben, écoutez, il va avoir des investisseurs locales. Hein. Tu sais, c'est pas une lutte, c'est pas une seule lutte, là. C'est 103 candidats, là. Donc, il va y avoir des investisseurs. Comme moi-même, là, j'ai fait deux investisseurs dans ma vie, puis je m'attends à en faire la troisième. Puis j'espère pouvoir que les membres vont me redonner confiance pour me représenter une troisième
non,
fois.
Non, mais entre vous et moi, il y a pas mal de monde. Ça va pas très bien dans Notre-Dame-de-Grâce avec Mme Montgomery qui s'est fait tasser. Il y en a une autre qui a quitté cette semaine qui s'est fait tasser. Le balai est en train de passer, là.
Ben, écoutez, c'est d'être au pouvoir, c'est pas la même chose qu'être en opposition. On peut pas juste être, par exemple, purement militant. Il y a une job, surtout dans le cas des mairies, je veux dire, il y a une grosse job d'administration qui doit être fait. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui s'imaginait que cette portion-là était si importante ou qui se sont plus là-dedans. Puis il y en a aussi, là, écoutez, il y en a qui des fois ça fait deux, trois mandats, puis ils veulent faire autre chose de leur vie. Là. C'est pas tout le monde qui veut être comme Marvin Rotran, puis ça fait, je pense, 40 ans qu'il est en politique municipale.
Et vous voulez un troisième mandat?
Oui, parce que j'ai pas complété tout ce que je voulais faire dans mon district, entre autres.
OK. Parfait, M. Ouellet, merci.
Merci beaucoup, M. Ouellet.
Au revoir. Sylvain Ouellet est le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. On a appelé M. Croteau, qui a décliné gentiment. Il nous a souhaité une bonne journée. Ce sera un des sujets de la commission ce matin. Avis aux gens de l'Hôtel de Ville. Là, l'impression que vous allez entendre M. Ferrandez, notre commissaire, nous parler un peu de ce qui se passe dans cette crise à Projet Montréal. C'est intéressant quand même le dossier de Radio-Canada. Il y a des trucs que j'avais entendus depuis des mois, là, notamment sur « on tasse un tel », puis tu sais, dans le genre « comment ça se fait qu'il est allé fermer telle rue, comment ça se fait qu'il a fait ça ». Puis des fois, c'est un prétexte pour se débarrasser aussi. Un certain ménage. Puis là, je vais les faire crier, là, un certain ménage, quand le politburo l'a décidé. Il est 7h38.